si j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On est de retour le midi avec l'émission On en jase de midi à 14h pour cette année 2026. Il est présentement midi 2 minutes. Pascal CV, toujours en forme?
Toujours en forme.
Excellent. Donc, c'est une semaine, Pascal CV, Jeff Fortin le matin, avec en remplacement de Marceau le matin. Max Larouche, évidemment, est avec nous. Après ça, c'est le point de Max. On en jase. Puis là, vous allez rentendre Max Larouche dans le retour pour deux jours parce qu'il remplace Audrey Pinchot qui est en vacances. Fait que bref, on travaille fort pour vous, puis il y a un individu qui travaille fort pour nous donner de la nouvelle, c'est Donald Trump.
Ah oui, lui, il n'a pas lâché le morceau là, pendant les fêtes parce que vous aviez quelques jours de congé. Chose assurée, nous autres, on a suivi ça, on n'avait pas le choix. On rentrait en onde, puis on avait cette nouvelle-là qui popait. Écoute, c'est le cas de le dire qu'il nous donne la broue dans le toupet, Donald Trump, en ce moment, parce que en plus de toutes les nouvelles, la façon d'analyser la chose avec le droit international, t'as tous les discours hein, sur les réseaux sociaux, les gens qui défendent, qui ne défendent pas, qui demandent plus d'aspects, qui n'en comprennent pas certains. Et la chicane, la fraction sociétale qui se crée aussi est super problématique
vraiment
là-dedans. Mais bon, on en jasera de fond en comble avec notre ami Victor Henriquez, qui va remplacer encore une fois cette semaine Antonine Iaccarini. Ça va être le caucus Henriquez.
Exactement.
Mais dans la nouvelle, les dernières choses à savoir, c'est que Maduro est arrivé au tribunal de New York. C'est qui? Ben, c'était le président vénézuélien. Je parle au passé parce que ben, pour l'instant, il est déchu. Hein? Nicolas Maduro, il est arrivé pour comparaître devant un tribunal de New York aujourd'hui. C'est deux jours après avoir été enlevé à Caracas pendant une opération militaire américaine qui a été chaudement applaudie par Donald Trump. On s'en prend à lui parce qu'on pense et qu'on dit, en fait, que c'est une problématique au niveau de la drogue, une problématique au niveau de la gestion de son peuple. Il est détenu depuis samedi soir à Brooklyn. C'est dans un centre de détention assez particulier, merci, en
délabré,
fait. Insalubre, gestion défaillante. On ne l'a pas envoyé là par hasard. C'est vraiment un choix, assurément, de l'envoyer dans un des grands centres de détention les plus gros des États-Unis. Nicolas Maduro, 63 ans, qui va répondre à 4 chefs d'accusation connus actuellement, principalement pour des faits de trafic de drogue, comme je vous disais. Il a été kidnappé avec son épouse, Cilia Flores, 69 ans, et elle va répondre de 3 chefs d'accusation aussi. Alors, des images qui ont été diffusées partout. Comparution qui est prévue à partir de midi. Donc, là, ça se passe probablement du côté des États-Unis.
Pascal, il y a des amateurs de ski qui vont être heureux parce qu'à compter de mercredi, on le fera moins 5. C'est moins 16 présentement, alternant soleil et nuages, et moins 8 pour demain. Le massif va reprendre des activités partielles.
Oui, bien, la grève n'est pas terminée, mais il y a certains skieurs qui vont pouvoir avoir accès aux pentes du massif de Charlevoix. On a une reprise partielle et contingentée, on dit, des opérations dès demain. Donc, réouverture partielle avec une journée de test. Là. C'est une approche graduelle. On s'adresse, par contre, uniquement à ceux qu'on considère comme étant des invités. C'est ceux qui ont un forfait ski-hébergement. Mm-hmm. C'est pour les membres Icon Pass et Mountain Collective, ainsi qu'il y a la clientèle du Club Med de Charlevoix, qui vont pouvoir accéder aux pistes. Les skieurs détenteurs d'un billet de saison vont pouvoir aussi accéder aux pentes de la station de ski alpin, mais à partir de mercredi, donc partiellement ouverte pour les prochaines semaines, du mardi au samedi.
Et 14h, le port de Québec va nous faire une petite mise à jour parce qu'il y a eu un effondrement ce matin.
Oui, une partie du quai. La partie du quai 25 au port de Québec qui s'est effondrée. C'est une portion d'environ 60 mètres. C'était le mur de couronnement du quai 25 qui était là. Et c'est une autre section d'environ 40 mètres qui présente encore un risque imminent de rupture selon l'organisation. Et ça a cédé, mais ça avait été construit en 1909, là, ça faisait plusieurs années. On me dit que c'est une situation majeure. On ajoute qu'il y a des employés qui ont évalué les dégâts dimanche. On avait demandé une subvention de plusieurs milliards de dollars du côté du gouvernement. Ça n'avait pas été accordé et malheureusement, le temps a fait son œuvre. Donc, c'est le quai qui est situé à l'extrémité de la pointe à Carcy. C'est celui qui donne sur le fleuve, sur l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Et on va faire le point, comme tu dis, cet après-midi sur l'enquête qui est en cours à propos de l'effondrement.
C'est clair qu'il va y avoir de la pression politique de mi, selon moi, de la part de la PDG du Port de Québec, Olga Fehrman, qui a récupéré, devrais-je dire, le port dans cet état-là. Là.
Oui, écoute, là, ça, cette partie-là, le quai 25, qui n'était plus utilisé parce qu'on avait vu, heureusement, il n'y a personne qui a été blessé là-dedans,
ouais,
mais on avait vu qu'il fallait arrêter le transbordement de la marchandise en raison du piteux état. Donc, on s'est dit, ben non, on ferme ça. La l'affaire, c'est que si on veut devenir hyper important, comme le souhaite Mme Foreman, son équipe, comme on souhaite au niveau des paliers gouvernementaux, ben va falloir probablement aller de l'avant avec cette subvention de 2 milliards de dollars qui a été demandée au fédéral.
En plein son, on n'aura pas le choix, c'est certain. Il est avec nous lors de notre dernière semaine d'On en jase. Et est avec nous cette semaine, c'est Victor Henriquez dans le caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Et là, comme je viens de le dire, c'est pas Antonin Iaccarini, mais Victor Henriquez qui sera avec nous pour cette semaine. Encore une fois, l'excellent Victor Henriquez, devrais-je. Comment ça va, mon ami? Merci d'être avec nous.
Ça va bien, toi. Merci. Merci pour l'invitation et bonne année à tous. Hein. Bonne année 2026. On souhaite à tous nos auditeurs beaucoup de santé, du bonheur et le succès. Mais la santé avant tout, parce que le reste, ça suit.
Ça suit. La paix aussi, on peut souhaiter la paix dans tous les spectres.
La paix dans le monde.
La paix dans le monde. OK, on va parler de paix dans le monde, vraiment? Non. Victor, c'est drôle parce que tantôt, hors d'onde, tu nous disais, « Hey, moi, là, je suis venu dans votre studio, vous apportez un petit cadeau, je suis reparti, j'ai décroché. » J'ai fait la même chose, moi, entre le 24 et samedi, j'ai décroché de l'actualité, j'ai dit, « Garde, la machine à off, on dort, on se repose, on profite des miens. » Mais quand samedi matin, j'ai dit, bon, faudrait que je m'en mette un peu dans l'actualité. Et oh, boba, il y avait une éclipse médiatique Trump.
Une chance que mes notifications n'avaient pas été éteintes dans mon break, moi non plus, parce que j'aurais manqué la nouvelle de l'année le 3 janvier. Hein? Ça n'a pas pris trop de temps à commencer l'année à Lyon. Alors, le 3 janvier, on s'est réveillé au matin avec cette nouvelle qui avait l'air quasiment d'une fausse nouvelle au début parce qu'on a l'impression que ça allait jamais arrivé ou que c'était jamais arrivé. Aujourd'hui, on a fait un peu la paix avec ça. Mais cette capture de Nicolas Maduro dans la nuit de vendredi à samedi à Caracas, au Venezuela, c'est un énorme changement. C'est un énorme changement dont on connaît très peu la portée à ce moment-ci. Pascal en parlait avant le début du caucus, Nicolas Maduro qui est devant le juge à New York. Les accusations qui seront portées contre lui sont des accusations majeures, il faut quand même le dire. Hein. On parle vraiment d'un président qu'on appelle un narco-président ou qui a participé activement à des cartels et au narcotrafic. Donc, il y a eu cette capture-là et depuis ce jour-là, ben, il y a des réactions partout. Des réactions positives, des réactions négatives. C'est hyper équilibré un peu partout dans le monde. Si on regarde aussi, moi j'ai la chance de parler espagnol, j'ai lu beaucoup de nouvelles en espagnol. Les Vénézuéliens à l'extérieur du Venezuela sont extrêmement heureux. Et il faut le dire, hein, parce que c'est 25 % de la population du Venezuela qui a quitté depuis le début de la dictature Chavez-Maduro. Imaginez, là, c'est 8 millions de Vénézuéliens qui habitent à l'étranger. Et ces gens-là attendaient ce jour-là depuis leur départ.
Oui, parce jour, que Victor, il y en a plusieurs qui disent « Je vais revenir au pays maintenant si la structure démocratique est respectée. »
Ben, tout à fait. Tu sais, puis c'est un peu l'ambition quand tu pars. Hein. Tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de raconter mon histoire à quelques reprises. Moi, je suis parti du Chili très jeune dans une dictature. Alors, quand tu pars pas parce que tu as le goût de quitter ton pays ou parce que l'économie va pas bien. Tu pars parce que tu es en danger. Et ces gens-là sont souvent partis parce qu'ils étaient en danger. Nicolas Maduro, c'est quoi? C'est des prisonniers politiques, c'est l'assassinat de plusieurs opposants, c'est beaucoup de répression contre les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui puis avec Hugo Chavez avant lui. Donc, il y a des gens qui ont quitté en danger de mort et ces gens-là sont partis en laissant un pied au Venezuela. Ils voulaient revoir leur famille, souvent les gens ont vieilli, les parents ont vieilli, et ils rêvent d'y retourner. Mais là, pour y retourner, il faut que les choses changent pour de vrai. Et ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui va vraiment changer? Alors, depuis samedi, on entend beaucoup de choses, mais le premier message que je voulais passer aujourd'hui en vous parlant, c'était de dire, il faut faire attention, parce que c'est hyper complexe comme situation. Puis on entend plein de choses, puis on nous parle beaucoup du droit international. Je pense qu'il faut toujours revenir à la base. Le droit international, là, excusez-moi l'expression, mais quand vous n'avez pas de liberté ou quand vous êtes sous la répression, là, ça vous importe très, très peu. Hein. Et il faut quand même rappeler une chose, puis c'est une collègue qui me disait ça ce matin, le droit international, c'est valable pour bien du monde, sauf pour les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que quand tu ne respectes pas le droit international, celui qui peut te taper sur les doigts, c'est les Nations Unies, c'est l'ONU, et c'est son Conseil de sécurité. Mais si tu es membre du Conseil de sécurité, tu as ce qu'on appelle un droit de veto. Donc tu te fais chicaner, mais il n'y a pas de conséquences. Alors les États-Unis, la Russie, la Chine et les autres membres permanents du Conseil de sécurité, ils ont l'habitude de ne pas respecter le droit international. Donc on parle beaucoup du respect du droit international aujourd'hui, mais la question à se poser, c'est est-ce que vraiment c'est respecté par tous? Puis la réponse, c'est non. C'est souvent pas respecté par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Si jamais, parce que là, ça se coltaille un peu partout, partout dans le monde même, chacun des pays qui regardent l'actualité se coltaille entre eux au niveau de ce qui se passe avec Donald Trump et ce qui s'est passé avec Maduro. Mais si on se cache derrière les histoires de narcotrafiquants, derrière la drogue et tout ça, chose étant présente au Venezuela, est-ce qu'on va réussir à plaider cette cause-là au niveau de Donald Trump et d'être cru à travers le monde quand on voit aussi l'impact, les conversations et tout le pétrole du côté du Venezuela, qui était en fait une cible fortement alimentée dans les désirs de Donald Trump?
Ouais, tu mets le doigt sur le bobo, Pascal, parce que le narcotrafic, c'est une excuse. Puis la meilleure preuve que c'est une excuse en passant, c'est que dans les pardons que Donald Trump a donnés, Donald Trump a pardonné un ancien président du Honduras qui avait été condamné à 45 ans d'emprisonnement pour trafic de drogue. Quand il est arrivé comme président, il a dit « Non, non, ça, c'est un maudit bon gars, on va lui donner le pardon. » Donc, tu sais, c'est dur de donner le pardon à un maudit bon gars qui a fait du trafic de drogue, qui a été condamné par la justice américaine. Après ça, ramener Maduro en disant « Non, non, je le fais parce que je lutte contre le trafic de drogue. » On sait tous que la raison pour laquelle il est allé au Venezuela, c'est parce qu'au Venezuela, il y a beaucoup de pétrole. Là, quand on dit « beaucoup de pétrole » pour les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. On parle d'une réserve qui représente 18 % de tout le pétrole qu'il y a sur la planète. C'est la plus grande réserve inexploitée dans le monde. Et c'est une réserve qui est plus grande que celle de l'Arabie saoudite. Donc, le Venezuela devrait littéralement être un des pays les plus riches au monde dans l'exploitation de son pétrole. Ne l'est pas. L'a déjà été en passant. Dans les années 60, les années 50, le Venezuela, c'était le fleuron de l'Amérique latine. C'est un pays qui se développait énormément, c'est un pays qui n'avait pas de dette, qui fonctionnait extrêmement bien, construisait des écoles, des routes, des infrastructures, sans s'endetter parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Et les Vénézuéliens rêvent depuis longtemps de ce retour-là. Quand ils ont nationalisé le pétrole, ça s'est complexifié, puis on est arrivé là-dedans. Donc oui, c'est le pétrole qui fait que Donald Trump a débarqué là. Mais la réalité, c'est aussi que cette excuse-là, elle est vraie quand même. Le trafic de drogue au Venezuela, c'est une réalité. On a entendu parler du train d'Aragua, on a entendu parler de ces gangs, on a vu la réaction de la Colombie. Hein. Vous savez, les guérillas colombiennes, dans les derniers jours, ont dit « on est prêt à défendre le Venezuela ». Donc là, il y a des guérillas colombiennes reconnues pour être proches des cartels qui sont prêtes à sortir les armes pour défendre le Venezuela. Ils ne le font pas pour le bien des Vénézuéliens, ils le font eux aussi parce qu'ils veulent que leur marché fonctionne. Donc, tu sais, il y a beaucoup de business autour de ça, la business du pétrole, la business de la drogue. C'est pour ça que c'est hyper complexe, qu'il faut vraiment être prudent dans les commentaires. Puis vous avez vu comment Mark Carney a commenté? C'est pas pour rien qu'il est prudent, parce que justement, on sait qu'on marche sur des œufs dans ce dossier-là.
Oui, exactement. Tu parles de la Colombie, Victor. À quel point c'est la prochaine cible pour Donald Trump et les Américains? Est-ce que c'est la Colombie? Est-ce que c'est le Groenland? Est-ce que c'est Cuba? Ouais. Est-ce que c'est le Canada? On se pose ces questions-là à l'heure actuelle avec ce qui est arrivé en fin de semaine.
Honnêtement, je n'ai pas le bout de cristal, puis il y a plein de spécialistes de la politique internationale qui pourraient vous en dire plus que moi, mais il y a des choses qui sont évidentes, par exemple. Au niveau de la Colombie est la prochaine cible si on pense que le narcotrafic est la véritable cible de Donald Trump. En Colombie, il n'y a pas de pétrole, gang. Alors, ultimement, rentrer là, ce serait une épreuve de force dans le simple but de montrer que, de donner l'impression que son excuse du trafic de drogue est vraie. Alors oui, là-bas, il y a un président qui est un président de gauche, M. Potro, qui est un ancien guérillero, en passant. Hein. Donc, il a déjà pris les armes. Et d'ailleurs, tantôt, il a fait une déclaration en disant qu'il était prêt à les prendre à nouveau s'il faisait attaquer. Donc là, on est dans les grandes enflures verbales du côté de la Colombie, mais je ne pense pas que Trump ait l'intention d'attaquer là. Tu me parles de Cuba. Cuba, c'est un peu différent. Cuba, c'est un peu différent parce qu'on sait qu'au niveau du régime cubain, ben, Trump, comme tous les républicains, ont une haine profonde du régime cubain en place. Ça a toujours été pour les Américains une espèce d'illogique d'avoir un régime communiste à 90 km de leur frontière, hein, de la Floride. Mais en même temps, Trump a dit que Cuba allait tomber un peu tout seul. Parce qu'il faut quand même savoir que les Cubains respirent, notamment grâce au pétrole vénézuélien qui leur était vendu par le Venezuela avec la collaboration de la Chine. Donc, sans le pétrole du Venezuela, est-ce que Cuba va survivre longtemps? Honnêtement, le pays étouffe déjà avec l'embargo. Imaginez avec ça. Là, maintenant, il y a le Groenland. Il faut parler du Groenland parce que c'est la prochaine grande cible, mais on n'est pas dans la même situation. Dans le cas du Venezuela, attaquer le Venezuela puis aller chercher Maduro à l'intérieur, comme je vous dis, il n'y a pas grand monde qui pleure Maduro aujourd'hui. Mais le Danemark est un pays avec une tradition démocratique extrêmement forte. Et le Groenland est un territoire qui tient à son autonomie. Est-ce que Donald Trump passe des messages? Donald Trump dit « ça me prend le Groenland d'ici la fin janvier ». Est-ce que c'est une négociation commerciale? Est-ce que c'est une négociation militaire? C'est une grande question. Il y a déjà une base américaine au Groenland. Est-ce qu'on veut l'agrandir? On va négocier avec le Groenland, j'en suis convaincu. Mais là, tout le monde est un peu inquiet parce que si Trump débarque avec l'armée au Groenland, là, on vient de changer la géopolitique mondiale complètement.
Ah ben absolument, parce qu'on ne pourra pas se cacher derrière effectivement des envies de détruire le trafic de drogue et tout ça, comme nous, ça a pu servir à Donald Trump au niveau de la frontière avec notre sort du fentanyl et tout ça pour les tarifs. Là. On a vu que c'était pas ça du tout. Ben les États-Unis s'intéressent au Groenland, mais pour sa position, comme tu dis, géostratégique cruciale, hein, c'est dans l'Arctique puis c'est face à la Chine, à la Russie. Ces deux pays-là qui ont aussi une envie, un désir de conquérir l'économie, donc de devenir les puissances économiques du monde, entre autres pour calculer et contrôler le reste. C'est beaucoup plus stratégique militairement pour les États-Unis, peut-être en termes de certaines ressources aussi. Donald Trump serait capable d'aller aussi loin que ça quand toute l'Union européenne surveille ses mécanismes de défense à Trump, tu penses?
Donald Trump est capable de faire à peu près n'importe quoi. Je pense qu'il nous l'a prouvé. Est-ce que, par exemple, il faut arrêter de penser que ce gars-là est fou? Ce gars-là est foutrement intelligent, il sait ce qu'il fait. On n'est peut-être pas d'accord avec lui, mais il n'y a rien d'idiot dans ce qu'il fait en passant. Et il n'y a rien de nouveau aussi. Puis ça, c'est un élément hyper important parce qu'il y a eu un document dans les derniers jours, dans les dernières semaines, excusez-moi, qui est sorti aux États-Unis sur la sécurité intérieure. Et dans ce document-là, le gouvernement américain dit, pour assurer la sécurité des États-Unis, il faut qu'on contrôle les Amériques. Ça, en passant, c'est une vieille théorie qu'on appelle la doctrine Monroe. Maintenant, ils sont nommés la doctrine Donroe pour le lien entre Monroe et Donald. Et cette théorie-là, elle disait une chose. Dans les années 1800, elle disait aux Européens, arrêtez de venir chez nous en Amérique. On va vous laisser tranquille en Europe. Laissez-nous tranquille. L'Amérique, c'est à nous. Et c'était ça la prémisse de ce discours-là, c'était de dire, c'est notre zone d'influence, on va protéger notre zone d'influence, mais on ne laissera pas les Européens venir l'envahir. La doctrine Donroe, donc de Donald Trump, c'est de dire que la sécurité des États-Unis dépend du contrôle par les Américains des Amériques. Mais il dit quelque chose d'intéressant, c'est que dans le document, ils disent, pour le faire, il faudra avoir des gouvernements qui sont des alliés et qui sont stables pour éviter que les gens de ces pays-là, des pays d'Amérique, veuillent tous venir aux États-Unis d'une certaine façon. Donc, il veut assurer une certaine stabilité de gouvernements qui lui ressemblent. Alors, c'est pour ça qu'il est très heureux du président argentin, par exemple, qui est un de ses bons amis, du nouveau président du Chili, qui est un gars d'extrême droite, ou des présidents d'autres pays qui sont des pro-Trump. Ce qui le dérange avec le Groenland, c'est que le Groenland, c'est le dernier morceau de l'Europe en Amérique. Et ça revient justement avec cette doctrine Monroe de dire ben, l'Europe n'a rien à faire sur notre territoire. Alors, est-ce que Donald Trump va envahir le Groenland? Honnêtement, je serais extrêmement surpris. Comme je vous dis, il y a déjà une base militaire. Sortir l'armée de là pour faire une opération, ce serait très peu justifié. Le Conseil de sécurité risquerait même de se virer contre lui. Son droit de veto, il l'a, mais ultimement, il pourrait avoir des conséquences plus graves. Je ne suis pas convaincu qu'il va aller là. Mais il passe un message à l'Europe en disant, regardez, pour moi, c'est clair, ça nous appartient. Puis en Amérique, vous n'avez rien à y faire. Donc, trouvez une façon, mais ça va se faire. Et ça, c'est là où je pense que la pression va être forte sur le Danemark. Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que, par exemple, on va parler d'une vente du Groenland aux États-Unis? Mais pour ça, il faudrait que la population du Groenland soit d'accord. Ils sont un peu plus de 50 000, mais c'est quand même 50 000 personnes à convaincre.
Puis
c'est beaucoup.
Un an jour pour jour, l'an dernier, on était dans les mêmes discussions. Peut-être pas de la même manière, mais c'était c'est un non catégorique de la part des gens du Groenland, là, de l'autre bord, de dire non, Trump, il a bien beau arriver, ça sera pas à lui. Là.
Vous avez vu une chose. Il a arrêté de parler du 51e État, mais il n'a pas arrêté de parler du Groenland, puis il n'a pas arrêté de parler du canal du Panama. Puis honnêtement, le sud des Amériques l'inquiète moins parce que, comme je vous disais, les présidents en Argentine puis au Chili sont des amis. Donc, le passage au sud, ça va. Mais rappelez-vous pourquoi il a pris le canal du Panama puis il a passé un message. Parce qu'il n'aimait pas ça voir les Chinois rentrer en Amérique. Puis Donald Trump est en train de protéger sa zone d'influence. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que les Russes vont faire pareil, les Chinois vont faire pareil. Alors, imaginez la négociation de l'Ukraine, de quoi elle a l'air après ce qui s'est passé en fin de semaine. Imaginez maintenant les Chinois puis Taïwan. Parce que Taïwan, c'est une île à côté, autonome de la Chine, et la Chine fait beaucoup de mouvements autour de cet endroit-là. Le monde est en train de changer. Est-ce que, par exemple, c'est si nouveau que ça? Honnêtement, c'est pas si nouveau que ça. Puis je pense qu'il faut quand même se rassurer dans le fait de dire c'est des choses qui ont déjà existé dans l'histoire de la planète, et c'est pas non plus un danger qui est imminent partout. Parce que Donald Trump a quand même des alliés qu'il veut garder.
Mais parlant de pas si nouveau, est-ce que justement ça va ouvrir la porte à la Russie pour tenter de reconquérir des territoires de l'ancienne URSS? Je pense notamment à la Moldavie.
Ben, je pense que oui, et puis je pense que là-dessus, il y a quelque chose d'un peu inévitable, hein, mais cette poussée des zones d'influence, la communauté européenne l'a quand même fait. Vous savez, l'Union européenne est quand même allée s'étendre dans des territoires qui n'appartenaient pas nécessairement à l'Europe historiquement. Tu sais, la Russie est allée chercher des territoires au sud, la Chine et Taïwan, c'est un grand enjeu, mais aussi la Corée du Nord et tout ça. Donc, c'est comme si ça fait longtemps qu'on pousse les frontières, hein. Dans tout ça, vous écoutez ce qui se passe en Afrique, par exemple, où les Chinois investissent de façon massive. En Amérique du Sud, il y a beaucoup d'investissements chinois. Ça aussi, ça fatigue Donald Trump. Tu sais, c'est tout ça, c'est toute cette volonté de pousser les frontières le plus possible de ce monde occidental, de ces pays industrialisés qui ont besoin de ressources pour nourrir leurs économies. Donc, tout ça est une question de business. On vient de voir un gros changement avec le Venezuela. Mais pour finir sur ce sujet-là, ça reste qu'il y a quand même des gens qui célèbrent dans la rue en ce moment, c'est les gens du Venezuela. C'est un peuple qui était beaucoup opprimé. Puis c'est un peuple qui espérait qu'un jour quelqu'un vienne sortir le dictateur de la place. Et ça, là-dessus, il y a un peuple de plusieurs millions d'habitants qui applaudit majoritairement Donald Trump en ce moment parce qu'ils ont sorti le méchant. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça lui fait des alliés et des gens qui disent, Mon Dieu, Donald, tu as réussi là où les autres ont échoué.
Non, c'est intéressant ce que tu amènes, Victor, sans l'ombre d'un doute. Tu as dit pour terminer sur ce sujet-là, donc je t'amène sur un autre sujet, la course au Parti libéral du Québec. Écoute, Pascal, souviens-toi, avant Noël, on ne parlait que de Pablo Rodriguez.
Maintenant, on ne peut plus parler de Pablo.
Et là, on ne peut plus parler de Pablo parce qu'il est du passé. Mais là, Victor, dis-moi, est-ce qu'on va avoir une course palpitante parce que ça s'ouvre officiellement lundi prochain, le 12 janvier, et les gens peuvent déposer leur candidature jusqu'au 13 février?
Non, parce qu'après 20 minutes à parler de géopolitique mondiale, il me semble que la course au PLQ, ça n'a pas l'air important
Ouais,
comme
mais c'est ça, ça fait. C'est comme si on parlait d'un petit village, là.
Exactement. Mais pour nous, c'est essentiel. Hein, on se dit, on va avoir une élection en 2026. Alors, il faut voir c'est qui les joueurs qui vont être sur les starting blocks. Moi, en temps des fêtes, j'ai eu quelques conversations. Tu sais, j'ai décroché, mais les amis continuent à appeler puis à parler politique. Hein.
Là, Tout le temps.
J'ai eu deux drôles d'appels pendant la période des fêtes qui m'ont parlé du fait que Guy Cormier n'avait pas encore dit qu'il n'était pas intéressé par la course.
C'était okay. pas juste une
là,
rumeur
mis
et
la
un
puce à
fantasme. C'était pas juste un fantasme.
Ben, j'avais parlé du fantasme Guy Cormier, hein, l'ancien président du Mouvement des Jardins, qui est sous contrat avec le Mouvement des Jardins jusqu'au mois de mars, qui avait déjà dit ouais, c'est trop tôt pour moi parce que jusqu'en mars, je suis sous contrat. Mais là, ça tombe bien, la course est finie le 14 mars. Donc là, je me suis mis à me poser la question, est-ce qu'on me dit, c'est qu'il y aurait une certaine réflexion du côté de Guy Cormier qui cherche à avoir un impact sur la société québécoise, qui est intéressée par la chose publique, mais au niveau familial, c'est pas sûr qu'ils veulent nécessairement s'embarquer là-dedans. Il faut savoir que sa femme est devenue conseillère d'arrondissement lors des dernières élections municipales à Lille-Bisère, où est-ce qu'il demeure. Alors, est-ce que les deux conjoints en politique, c'est une bonne idée? Est-ce que vraiment ça va lui tenter? C'est une bonne question. En ce moment, les indicatifs sont pas super positifs. Moi, je dis souvent, lorsqu'on parle de fantasmes à rumeurs, c'est quand même un peu intéressant. Donc, je ne mettrai pas ça de côté. J'ai hâte de voir s'il va dire non dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'on verra ce fameux message sur les réseaux sociaux en disant « Je remercie les gens de m'avoir approché, mais j'ai décidé de passer mon tour ». C'est celui auquel beaucoup s'attendent, mais il n'a pas encore été rédigé. Et ça donne espoir à des gens autour de Carl Blackburn ou, par exemple, de Pablo Rodriguez, qui espèrent trouver quelqu'un avec plus de notoriété que Charles Millard. Autre nom qui ressort, Yves Desjardins, qui est l'ancien PDG de Siemens Mobilité. Yves Desjardins Siciliano. Pas très connu aux yeux du grand public, mais il a un profil intéressant. C'est l'ancien PDG de Siemens Mobilité Canada. C'est un homme d'affaires assez bien reconnu, assez crédible. Il a également présidé Via Rail, par exemple. Alors, c'est un profil économique qui intéresse les libéraux. Et il y a des libéraux qui se demandent si ce ne serait pas un bon candidat. Il semblerait que Yves Desjardins est sur le téléphone. Et il y a Charles Millard, qui est le candidat qui avait fini deuxième, mais qui souffre d'un enjeu, c'est son manque de notoriété. Donc là, les libéraux vont devoir faire un choix. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils choisissent un candidat qui veut vraiment le faire comme Charles Millard, mais qui manque de notoriété, ou est-ce qu'ils essayent encore de recruter, de convaincre un Guy Cormier ou un Yves Desjardins Siciliano? C'est ce qu'on saura dans les prochains jours. La course débute officiellement lundi prochain, le 12 janvier, et les mises en candidature devront être faites avant le 13 février. Ça, c'est pour la course. Mais je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle il y a quelques minutes. Il y a un responsable à l'éthique de cette course-là maintenant. Alors, les libéraux ont
Ouais, j'ai
décidé
vu le
de nommer une
Ils veulent se
personne.
pader, hein?
Ben, ils se sont podés, et ça, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que je trouve que en termes de perception publique, moi, j'étais un gars de RP, puis je trouve ça intéressant, puis je trouve que c'est un bon mot de la part
oui,
de l'idée.
Oui, sauf si le responsable à l'éthique a l'éthique fluide. Là. On...
Ben, c'est ça, faut que tu choisisses quelqu'un de parfait. Puis ça, Pascal, t'as tellement raison là-dessus. Alors, c'est l'avocat Julien Morissette. Je ne le connais pas nécessairement, mais j'ai pas de commentaires négatifs à son sujet. Mais c'est sûr que son éthique à cet avocat-là va certainement être regardée par tous les journalistes qui font enquête à ce moment-ci. Et il faudra s'assurer qu'il n'ait de lien avec personne. Mais les libéraux sont conscients que s'il y a une course, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements sur tout ce qu'ils vont faire dans cette course-là.
Victor, je te pose la question qui tue, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un des trois candidats que tu nous as nommés qui peut faire un bon chef du camp du non?
Hey, t'as des bonnes questions pour commencer l'année. C'est dur. Regardez, moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que je comprends toutes les théories sur le chef du camp du non, mais on se rappelle qu'en 1995, le chef du camp du non, c'est Daniel Johnson. Mais il n'y a personne qui va me dire que c'est Daniel Johnson qui a donné la victoire au camp du non. La réalité, c'est que le camp du non sera formé de gens venant un peu de partout. Et je vous donne un exemple. Est-ce que François-Philippe Champagne, ce qu'on appelle le lapin energizer de la politique fédérale, sera, lui, un acteur important du camp du non? Poser la question, c'est y répondre. Il y a des acteurs à Ottawa, par exemple, ou même à Québec, qui pourraient ressortir dans un éventuel référendum. Là, les libéraux doivent faire attention, justement, à ne pas anticiper trop les choses. Il faut qu'il se trouve quelqu'un capable de gagner la prochaine élection. Parce que lorsque le PQ est à 35 à 40, ça veut dire que le débat va revenir là où il y a toujours une bataille Parti québécois-libéraux. Les libéraux ne peuvent pas laisser la défense du fédéralisme entre les mains de la CAQ. Ce n'est pas naturel pour les libéraux de faire ça. Donc, je pense qu'ils doivent aller chercher quelqu'un qui doit leur donner une shot honnête, comme on dit. Il faut qu'ils soient capables d'avoir quelqu'un qui va être capable d'avoir un discours intéressant pour les Québécois. C'est quoi qui inquiète les Québécois? C'est la santé et c'est l'économie. Alors, ça leur prend quelqu'un qui garde de donner une réponse là-dessus. Est-ce que dans ces trois candidats-là, il y en a? Je reviens. Guy Cormier, pour moi, c'est le candidat naturel. Si Guy Cormier dit oui, tout le monde doit se tasser et laisser passer. Ils n'ont pas de temps à perdre puis ils doivent créer la campagne autour de lui. Maintenant, si Guy Cormier dit non, à ce moment-là, on a des gens qui ont des noms beaucoup moins connus. Puis là, je pense qu'une course serait intéressante pour faire connaître ces gens-là, parce que ça ferait quoi une course? Ça ferait qu'on parlerait de gens qui sont moins connus très souvent dans le prochain mois, ce qui serait une bonne nouvelle pour les deux candidats, quel que soit celui qui se fait élire.
Ça ferait du bien quand même à la politique provinciale avec tous les enjeux, avec la complexité de réélection ou d'élection dans les prochains mois, d'avoir quelque chose de solide au niveau de chacun des partis, au moins pour élever le débat, au moins pour parler des vrais enjeux et non de la famille, des paiements, des amendes, des contraventions ou encore du manque d'éthique des membres et des partis. Victor, ça c'était pour la politique provinciale. Au niveau du fédéral, j'aimerais juste faire un clin d'œil peut-être avant de te laisser quitter. Je sais, les gars, qu'on était sur la fin, là. Mais il y a quelque chose qui me titille depuis qu'on a parlé de Maduro, de la façon dont Carney s'est positionné là-dedans. Ça reste qu'au fédéral, il y a son ennemi politique, disons-le comme ça, et c'est M. Pierre Poilievre qui, lui aussi, a commenté la chose en disant félicitations pour l'arrestation de Maduro. Il va y avoir quelque chose d'intéressant aussi au niveau du fédéral dans cette analyse-là. Au niveau de la politique internationale de la part des deux qui s'affrontent sur le plan fédéral, ouais. Soit Mark Carney puis Pierre Poilievre aussi. C'est deux façons de voir les choses différentes.
C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis ça nous rappelle quelque chose de quand même assez triste. Hein, c'est que le Canada n'est pas un joueur majeur au niveau international. Le Canada a plus à perdre de dénoncer Donald Trump qu'il a à gagner. Il a plus à perdre parce que lui, dans une négociation sur l'accord de libre-échange. Puis pour le Canada, cet accord-là, c'est vital. C'est vital pour son économie. Et le Canada doit s'assurer de rester dans la bonne zone d'influence, parce que sinon, on voit ce que Trump fait lorsqu'il ne pense pas être dans la bonne zone. Pierre Poilievre a très rapidement jumpé là-dessus, puis je ne vois pas juste Pierre Poilievre, hein, le monde conservateur, les influenceurs conservateurs sur les réseaux sociaux en ce moment sont très forts à applaudir Donald Trump. Et honnêtement, je ne suis pas en désaccord avec eux. Il faut aussi rappeler que Pierre Poilievre a une légitimité morale que Mark Carney n'a pas, puisque l'épouse de Pierre Poilievre est une réfugiée venant du Venezuela. Elle comprend la situation sous l'angle des exilés beaucoup mieux que bien des gens. Et moi, je pense que ça lui donne une légitimité morale à parler du sujet, puisque sa femme le connaît extrêmement bien. Mais la prudence de Mark Carney, elle est extrêmement symptomatique du fait que maintenant, on a compris qu'on ne peut pas marcher sur les pieds de Donald Trump sans avoir un prix à payer. Et ça, là-dessus, ça montre aussi la faiblesse du Canada par rapport à son voisin, où est-ce qu'on pourrait beau vouloir se la jouer grand seigneur, on est en ce moment devant un président qui est très imprévisible. Puis la question que je vous poserais, c'est, vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jean Chrétien avait dit aux Américains, non, nous n'irons pas avec vous en Irak en 2001 ou 2002, si
ouais,
je me trompe
je
pas.
Je me rappelle très bien.
Il avait frappé sur la table, il avait dit, non, le Canada ne vous appuiera pas, on ne croit pas aux armes de destruction massive. Puis il avait, dans le fond, renvoyé George Bush à faire ses devoirs. Je pense pas que le Canada ait aujourd'hui l'influence internationale nécessaire pour faire ça. Je pense que le Canada a une influence intéressante dans la zone Canada-Europe. Par exemple, on a vu la nomination de Chrystia Freeland comme conseillère de développement économique de l'Ukraine aujourd'hui.
Ouais.
Donc, je pense que là-dessus, on a un axe d'influence intéressant. Mais au niveau de l'axe américain, de notre influence au Conseil de sécurité, de notre influence à l'ONU ou de notre influence militaire, on a perdu énormément de points et on ne peut plus s'opposer à notre voisin comme on l'a déjà fait dans le temps.
Et Victor, je termine là-dessus. Qu'est-ce qui fait en sorte que Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, elle, peut se permettre justement cette offensive-là contre Donald Trump?
Près de 200 millions d'habitants. La réalité aussi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on parle de chiffres au Canada. Hein. On est un petit pays dans cet ensemble-là. Les États-Unis du Mexique, parce que c'est ça leur véritable nom, hein, les Estados Unidos de México. Les États-Unis du Mexique sont un très grand pays avec une très grande population et ils sont surtout le plus grand pays d'Amérique latine. Et comme plus grand pays d'Amérique latine, la présidente mexicaine a une légitimité plus grande aussi pour défendre l'Amérique latine. D'ailleurs, le Mexique a toujours été, aux yeux des latino-américains, cette espèce de rempart de défense. Hein. Là où la culture latino-américaine, elle évite et elle bloque la culture américaine, c'est au Mexique. Et ça a toujours été important pour les latino-américains. D'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements entre le Sud, l'Amérique du Sud et le Mexique. Les artistes, la musique, tout ça se transpose beaucoup dans ces endroits-là. Et c'est une espèce de protection, le Mexique, pour la culture latino-américaine. Donc, le Mexique a une légitimité morale à aller beaucoup plus loin là-dessus. Et je pense même que Donald Trump comprend aussi que la position du Mexique est différente parce qu'ils sont impliqués culturellement parlant, alors que je pense que celle du Canada ne serait pas très comprise s'il décidait de s'y opposer. Mark Carney veut éviter une phrase... Le 51e étant.
Ouais.
T'as entièrement raison. Victor Henriquez, toujours un plaisir de te parler. On refait ça demain à midi sans faute.
À demain, gang.
Salut, Victor. Merci beaucoup. Victor Henriquez, que vous entendez sur nos ondes, vous l'avez entendu la dernière semaine avant les fêtes et vous l'entendez cette semaine dans le caucus en remplacement d'Antonine Iaccarini. Toujours très intéressant les conversations avec Victor.
J'ai envie d'ouvrir la porte au 88-971-1021 à ceux qui nous écoutent, Jeff, sur n'importe quelle question. N'importe quelle question dans le dossier, dans tout ce qui est géopolitique, conflits internationaux, etc. Parce que rares sont les fois où la porte est ouverte pour en discuter.
En effet.
On a de la politique provinciale, municipale, fédérale à gérer. On a nos enjeux au quotidien. On a la montée du panier d'épicerie. On a ci, on a ça. Mais là, c'est une des plus grandes portes ouvertes depuis longtemps. C'est dans notre cour parce que c'est notre voisin. C'est dans notre cour parce qu'on a été nommé. C'est dans notre cour, etc. Si vous avez n'importe quelle question, 88-971-1021, écrivez ça dans notre groupe de textos. Nous, on va faire des copier-coller, on va se faire une banque, puis on va s'assurer d'y répondre avec nos experts dans les prochains jours.
En effet, c'est une excellente initiative, Pascal CV. Je pense que ça va être très intéressant. Et d'ailleurs, Mark Carney qui a pris l'avion pour Paris aujourd'hui, donc va rencontrer là, le président français Emmanuel Macron. C'est dans une situation géopolitique très particulière. Va rencontrer aussi les alliés européens parce qu'on veut parler du plan de paix en Ukraine. Il en reste quoi de ce plan de paix-là avec ce qui s'est passé en fin de semaine? Donc, c'est plein de questions là, qui demeurent en suspens, sans l'ombre d'un doute. On fait une courte pause, on va changer d'un peu après. On va parler avec Alex Laramé, notre excellent journaliste au 99.5 Montréal. On va revenir sur le gros week-end de sport, la grosse période de sport du temps des fêtes. Équipe Canada Junior éliminée hier, le Canadien est en feu, les Steelers de Pittsburgh en série. Bref, on fait un gros survol de ceci après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.